Je vous invite à la prière pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, non pas nos pensées, mais ta parole, ton enseignement. Non pas nos réflexions, parfois stériles et vaines, mais le fondement de tes commandements, le fondement de ce que tu nous as laissé, qui est ton enseignement, ton œuvre pour nous. Donne-nous d'avoir un cœur ouvert, des oreilles attentives, un esprit, Seigneur, qui se renouvelle grâce à ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment aimons-nous que l'on nous parle lorsque nous sommes en pleine situation de faute? Les enfants, quand ils sont punis, comment aiment-ils vivre leur punition? Après avoir posé des actes mauvais qui entraînent parfois une cascade de conséquences désastreuses, qu'attendons-nous de notre entourage, qui peut-être d'ailleurs nous avait prévenus? Je pense que nous avons certainement déjà entendu des phrases du type « je t'avais prévenu ». « Bah tu vois, tu n'as que ce que tu mérites ». Ou encore « ah ben si tu en es là, c'est certainement que tu as mal fait », etc., etc. Que de beaux mots réconfortants, n'est-ce pas? De manière plus générale, de quoi a-t-on besoin pour tenir bon dans une situation difficile, pour laquelle nous sommes parfois à l'origine? Nous allons, je l'espère, tirer enseignement de ce que nous allons lire, puisque notre lecture aujourd'hui va porter sur le livre d'Ésaïe, et nous verrons que Dieu lui-même a fait face à ces situations d'un peuple désobéissant, sans cesse, à répétition, et qui vit le résultat des conséquences de ses fautes. Donc je vous propose de nous pencher dans le livre d'Ésaïe, qui signifie « Le Seigneur sauve ». C'est un livre qui est riche de la parole de Dieu, qui est adressé au peuple d'Israël. Donc ce qu'il faut savoir sur le livre d'Ésaïe, c'est que c'est un recueil de paroles de plusieurs prophètes de Dieu, dont Ésaïe, mais d'autres encore, c'est-à-dire des hommes qui se sont attachés à Dieu, afin de s'adresser au peuple en son nom. Il est évident que Dieu s'est toujours attaché des hommes qui ont une grande foi en lui. Il a utilisé des prophètes qui avaient eux-mêmes une belle foi en Dieu. Et ces prophètes étaient des conseillers, soit à côté de rois, à côté de gouverneurs, soit à côté d'un certain nombre de dirigeants spirituels au sein du peuple d'Israël. Ils ont été les conseillers de ces personnes-là. Et grâce à leur attachement à Dieu, grâce au rôle, à la qualité que Dieu leur a donné en tant que prophète, ils ont pu discerner, mieux que d'autres, les situations. Les paroles donc qu'adressent les prophètes sont des paroles qui sont inspirées de Dieu. Concernant le contexte historique, le texte d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, se situe dans les années 740-700, c'est une tranche, avant Jésus-Christ, et quelques siècles après aussi, nous voyons d'autres prophètes parler. Et à travers le texte, nous pouvons suivre la situation politique du royaume d'Israël, dont Jérusalem et aussi le royaume de Juda. Alors quand nous arrivons au chapitre 40, donc du livre d'Ésaïe, et les suivants, ce qui intègre donc le chapitre sur lequel nous allons nous concentrer, que le chapitre 43, il est question de la situation plus particulière du royaume de Juda qui se retrouve sous la possession de Babylone. Donc Babylone qui a été en possession de la terre de Juda et qui a fait succéder un certain nombre de rois, puis ensuite, après des guerres et des mouvements politiques, le royaume de Juda s'est retrouvé aussi sous les mains des Perses. Le prophète, donc, adresse les paroles de Dieu au peuple des Judéens, dirigé par le royaume de Babylone, où les rois se succédant apportent une certaine réticence à laisser le peuple exprimer sa foi en Dieu. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu plus de détails sur ces situations qui ont été vécues par le peuple sous la domination de Babylone, vous pouvez découvrir notamment le livre de Daniel, ou encore les chroniques. Et donc dans le livre de Daniel, on retrouve Daniel pile dans cette situation des Judéens mis sous la coupe des Babyloniens. Et c'est assez intéressant de le voir, Daniel, pour ceux qui connaissent l'histoire, vivre tous ces événements-là aussi avec les conseils que Dieu lui donne et les révélations que Dieu lui apporte. Le chapitre donc 43 s'articule autour de trois parties, et nous allons le lire juste après. La première partie, Dieu dit « N'aie pas peur, car je suis Dieu et vous êtes mon peuple ». Dieu fait une déclaration d'amour très forte et il ne cesse de répéter qu'il s'est attaché, le peuple d'Israël, il a fait une alliance qui est éternelle et celle-ci ne saurait être remise en cause. La deuxième partie, Dieu dit « J'ai un plan ». Ce que j'ai prévu est déjà en train de germer. Et enfin, la troisième partie, Dieu parle encore, et il fait état des péchés commis par le peuple d'Israël, et il défie ce peuple, son peuple, de rentrer en procès avec lui. Lisons donc ensemble le chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi. Couche et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta descendance et de l'Occident, je te rassemblerai. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre, quiconque est appelé de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, façonné et fait. Qu'on fasse sortir le peuple qui est aveugle, bien qu'il ait des yeux, et ceux qui sont sourds, bien qu'ils aient des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé cela? Qui d'entre eux nous avait appris ce qui s'est passé? Qu'ils produisent leurs témoins pour se justifier, qu'on les entende pour pouvoir dire « c'est vrai ». Vous êtes mes témoins, déclaration du Seigneur. Mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, moi seul, qui suis le Seigneur. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et dit. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, déclaration du Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. Depuis ce jour, c'est moi et personne ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Je les ferai couler tous ces fuyards, ces Chaldéens, dans les vaisseaux de leur triomphe. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle le Seigneur qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, tous ensemble. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que je me suis façonné, dira ma louange. Ce n'est pas moi que tu as invoqué, Jacob. Tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert le mouton ou la chèvre de tes holocaustes. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas astreint à un service d'offrande, et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse, de tes sacrifices. Mais tu m'as astreint à l'esclavage par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. C'est moi, moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelle-toi mon souvenir, entrons ensemble en jugement. Parle-toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont révoltés contre moi. J'ai profané les princes du sanctuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème, Israël aux injures. Jusque-là notre lecture. Alors vous découvrez ce texte, ce chapitre entier qui est long. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ce matin ensemble, nous allons prendre quelques extraits, trois extraits en particulier. D'abord sur la déclaration d'amour de Dieu, sur les versets 1 à 7, puis la promesse que Dieu fait, des versets 14 à 19. Et enfin, nous allons aborder dans les versets 22 à 28, la question de s'il s'agissait de rentrer en jugement devant Dieu. Donc dans les premiers versets, les versets 1 à 7, nous découvrons une parole de Dieu très forte. Elle est pleine d'amour pour son peuple. Elle est empreinte de réconfort. Et il est intéressant de voir comment Dieu définit sa relation avec son peuple. Il se présente d'abord comme le Créateur et Père, celui qui te crée, ô Jacob. Dieu se fait connaître comme un Père qui le nomme et crée la filiation. Il dit « Je t'ai appelé, je t'ai nommé par ton nom, tu es à moi ». Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime. Au verset 6, le Seigneur Dieu dit encore « Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre, quiconque est appelé de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, façonné et fait. » Nous avons là l'archétype de la relation père-enfant, grâce auquel nous avons un nom que nous portons, et c'est ce que le peuple d'Israël portait, le nom de Dieu. Alors cela peut paraître un peu excessif, un amour si possessif que Dieu exprime, mais il faut voir cela comme une revendication que Dieu adresse à son peuple. Ce peuple qui est dépossédé de son identité car il est quelque part en terre étrangère, il a été possédé par une autre contrée, par d'autres mœurs, il est sous la domination d'autres et Dieu a le besoin, la nécessité et le peuple aussi, de revendiquer ce qui lui appartient. Dieu s'adresse donc à une nation à qui on a changé de règne en règne les mœurs, les signes même d'appartenance. Et c'est dans ce contexte que Dieu se présente comme celui qui connaît ce peuple, celui qui est à l'origine de leur existence, celui qui sait lire leur détresse et qui comprend leurs attentes. Et en tant que père, que dit-il ? Face à ce peuple qui est arrivé là parce qu'il a transgressé les règles, parce qu'il a désobéi, ce peuple a été laissé à la main d'autres contrées. Et pourtant, Dieu le Père leur dit « N'aie pas peur, je serai avec toi ». En effet, Dieu notre Père est la figure du Père la plus accomplie, car il est le Saint Créateur qui s'attache fermement et éternellement à sa création. Il sait déclarer son amour, même lorsque ses enfants l'ont déçu. Loin de moi l'idée de faire une concurrence entre nos chers papas, nos parents de notre assemblée, mais il y a là un enseignement. Dieu est le Père Tout-Puissant. Alors que le peuple a désobéi, alors que le peuple a déçu, Dieu accorde encore et encore son amour. Il réconforte. Il cherche à fortifier. Comment sommes-nous les uns vis-à-vis des autres lorsque notre prochain, une personne que l'on aime, fait défaut, faillit ? Savons-nous quand même manifester notre amour malgré tout, afin de montrer de l'ouverture et d'ouvrir un chemin de retour ? En tant que parents, comment récupérons-nous les enfants après une punition ? En tant que mari et femme, comment replaçons-nous le dialogue après une forte dispute ? En tant qu'amis, comment agissons-nous lorsque notre ami nous a blessés ? Savons-nous faire place au pardon qui est une main tendue, une preuve d'amour véritable, plutôt que de replacer la faute au centre. Sommes-nous capables de nous exercer au pardon multiple, le 70 fois, 7 fois, potentiellement sur une même erreur, sur une même faute? En tout cas, la posture que Dieu apporte, que Dieu adopte face à ses enfants, est une source de réflexion. Par la suite, Dieu complète sa présentation en montrant sa domination sur les affaires politiques. Il dit « Je donne l'Égypte en rançon pour toi, ô Israël. De l'Orient, je ramènerai ta descendance et de l'Occident, je te rassemblerai. » Là encore, Dieu fait état de sa grande puissance, de son pouvoir politique. Comme enseignement, ce que je vous propose, c'est de nous rassurer sur notre la raison pour laquelle nous prenons le temps de prier et d'invoquer le nom de Dieu lorsque nous regardons au gouverneur de ce monde. Car Dieu l'a déclaré, il l'a démontré même, il domine sur toutes les puissances. Et cela implique les rois, les présidents, les forces politiques, qu'elles nous paraissent particulièrement puissantes ou même peu influentes. Et il est un parallèle dans le livre de Daniel, qui est assez stupéfiant, de voir comment Dieu cherche à s'adresser aux gouverneurs et aux rois de ce monde. Le peuple d'Israël est sous domination babylonienne, et ces Babyloniens ne connaissent pas Dieu, mais Dieu ne cesse d'essayer de se faire connaître par des visions, par des songes, et c'est Daniel qui se trouve auprès de ces rois de génération en génération, qui se trouve être celui qui va parler aux rois et les conseiller pour révéler auprès d'eux ce que Dieu veut leur dire. Je pense que nous pouvons penser que Dieu agit encore aujourd'hui de cette même manière. Au lieu que certains fassent appel à des magiciens, à des sages de leur contrée, il y a la possibilité encore pour ces rois, pour ces gouverneurs, de se laisser encore dompter par la sagesse de Dieu. Et notre rôle dans tout cela est de prier, de chercher auprès de Dieu pour qu'il conseille encore, qu'il se présente encore sans cesse devant ses gouverneurs, devant ses rois. Troisième phase, dans nos premiers versets, donc de Ésaïe chapitre 43, Dieu se présente comme le sauveur. Il affirme son statut, celui du sauveur du peuple. Il dit « J'ai assuré ta rédemption ». Avec sa grande puissance, avec la grande puissance de Dieu, le peuple n'a effectivement rien à craindre car Dieu promet d'être aux côtés de son peuple. Il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. » Lorsque Dieu fait ses promesses, il les fait à un peuple qui vit une situation de domination et d'oppression. Leur terre a été prise. Et la promesse de Dieu n'est donc pas qu'il n'arrivera rien. Le peuple fait face aux conséquences de ses actes. Ils ont désobéi et leur terre a été livrée à la domination d'autres contrées. Mais Dieu montre que son attachement, lui, reste fidèle. Il ne modifie pas son lien avec son peuple. Il reste le Père, il reste le gouverneur, il reste le Dieu puissant, le Sauveur. Et il déclare encore très fortement à son peuple, « Tu es à moi. » Lorsqu'il nous arrive d'être au bord de nos limites, à bout de force, sans ressources, le seul sauveur, le seul rédempteur, c'est Dieu. Il nous faut avoir ce réflexe, plutôt que de nous débattre avec nos propres forces. Dans le cas où nous aussi, nous espérons le retournement d'une situation, là où, par exemple, nous espérons que notre prochain, enfant, conjoint, ami, parent, change de comportement, il convient aussi de se référer à Dieu, car en lui se trouvent toutes les ressources. En lui se trouve le pouvoir de parler à l'un, de soupirer à l'autre, d'influer sur le comportement. Dieu le fait, jour après jour. Comment est-ce que nous pouvons exprimer à Dieu que nous sommes à bout de limites, à bout de force ? Par la prière. Simplement par la prière. cela est possible. En méditant la parole, cela est possible. En priant encore après avoir médité la parole, cela est possible. Être appelé fils ou fille de Dieu, quelle est la conséquence lorsque l'on subit les difficultés engendrées par nos propres désobéissances? Eh bien, c'est exactement ce que Dieu déclare au peuple judéen dans les versets 14 à 19. Donc, nous passons à la deuxième partie. Dieu fait des promesses concrètes. Le Seigneur annonce la chute des peuples qui ont pris les Judéens sous leur domination. Il prend sa place de roi au-dessus de toutes les royautés et il affirme la chute et ainsi la rédemption politique de son peuple. Par sa grande puissance, le Seigneur rappelle qu'il a déjà été ce grand vainqueur, rappelez-vous, au temps de l'Égypte, quand le peuple d'Israël était en esclavage, il était en servitude. Le Seigneur trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Et alors les ennemis se couchent et ne se relèvent plus. En effet, lorsque nous sommes en pleine détresse et que notre secours est Dieu, nous prenons la bonne part. En Dieu, nous trouvons les promesses les plus fiables, les meilleurs bienfaits pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. À l'exemple de la déclaration que Dieu fait envers son peuple, allons chercher ce que Dieu a en réserve pour nous, des paroles pleines de bénédictions. Dans les versets 18 et 19, nous avons accès à la libération. En effet, en face de la situation de son peuple, Dieu n'est pas insensible. Et en une phrase pleine de compassion, il dit à son peuple qui avait désobéi et dont la terre a été livrée, « Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau et dès maintenant, cela germe. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » En effet, le passé met en cause la désobéissance. Dieu avait donné ses commandements au peuple. Il avait parlé à travers les prophètes pour les prévenir, les enseigner. Mais le peuple s'est détourné, non pas une fois, mais plusieurs fois. Et ce sont dans les versets suivants que Dieu va rappeler la faute qui, si elle était prise telle qu'elle est, mériterait un jugement sévère. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il donne une parole de libération. Il dit « Oubliez le passé. Revenez à moi. Allez de l'avant. Car moi, je construis déjà le nouveau. » La promesse de Dieu pour celui qui croit en lui est celle-là. Ne pas rester sous la domination de nos fautes, ni même sous la domination du péché. Mais au contraire, trouver repentance auprès du Père. Dès que nous reconnaissons nos fautes, elles sont effacées. D'ailleurs, elles sont même déjà effacées. Le plan de Dieu pour nous va plus loin que cela. Il ne concerne pas seulement le peuple qui est attaché à Dieu, qui d'ailleurs constitue une majorité de nos membres de cette Église, mais le plan de Dieu va encore plus loin. Il est question de rédemption. C'est un Dieu universel qui parle en tout temps de toute génération. Et son plan, c'est un plan de salut qui concerne tout homme. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous n'avez pas encore conscience de votre péché, il est pardonné. Même si aujourd'hui vous n'avez pas encore la force de vous agenouiller en toute humilité devant Dieu, sachez qu'il est déjà pardonné. Mais pour ressentir ce pardon, il faut faire le pas de le reconnaître. Pour en avoir conscience, il faut faire le pas de se tourner vers Dieu. Pour en retirer tous les bénéfices, il faut s'agenouiller et dire au Seigneur, je reconnais mes fautes et je te demande pardon. Alors on peut faire un parallèle avec l'histoire de Nicodème. Quand dans Jean au chapitre 3, Jésus et Nicodème ont un échange et que Jésus explique, il faut naître de nouveau afin de se débarrasser de l'emprise des choses terrestres et accéder aux bénéfices et aux bienfaits que Dieu a à nous apporter. Il faut naître de nouveau. Il ne suffit pas d'avoir le savoir, il faut faire le pas de donner sa vie au Seigneur Jésus. Car Dieu nous a fait grâce de racheter en une seule fois toutes nos fautes, celles commises comme celles à venir. Comment l'a-t-il fait ? Il a donné le sang de son Fils, Jésus-Christ. Jésus, notre Seigneur, qui a accepté de mourir à la croix pour le salut de nos vies et l'effacement de nos fautes. Et ainsi, la relation avec Dieu a été rétablie entre Dieu et l'homme. C'est par lui, c'est en Jésus-Christ, que le chemin est à nouveau ouvert pour vivre le plan de salut de Dieu. Mais alors que faire quand nous sommes en situation de vivre les conséquences de nos actes ? Nous avons certes reconnu nos fautes, nous nous sommes humiliés devant Dieu, nous avons confessé que nous croyons vraiment que Dieu est capable de faire de nouveau, de tracer un chemin dans le désert et de mettre de l'eau dans la terre aride. Dieu invite ici dans les versets 22 à 28, c'est la troisième partie de notre méditation, il nous invite à essayer de rentrer en jugement. Mais que pouvons-nous attendre du jugement de Dieu ? D'abord, c'est un jugement qui est juste et fiable. Dans les versets 22 à 24 du chapitre 43 d'Ésaïe, les fautes et les transgressions faites par le peuple d'Israël sont énumérées. « Tu ne m'as pas invoqué, tu ne m'as pas offert de mouton, tu ne m'as pas acheté pour moi à prix d'argent et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. » Nous comprenons que Dieu se manifeste auprès d'un peuple auquel il s'est attaché et qui n'a pourtant pas crié à lui. Dieu donne en fait le chemin de salut au peuple d'Israël sans que celui-ci n'ait réellement manifesté sa repentance. Il dit « Tu n'as pas cherché ma face, mais je suis là devant toi. » Dans le jugement de Dieu, il y a ce juste jugement et il y a aussi la conscience, la prise de conscience de l'impact que peuvent avoir nos fautes. À cause de son attachement fort à son peuple, Dieu s'est retrouvé, je cite les versets, astreint à l'esclavage par les péchés de son peuple. Alors il n'est pas question du fait que Dieu soit devenu lui-même pécheur, puisque Dieu est saint, mais il est question du lien incassable qu'il y a entre son peuple et lui, cette filiation qui ne se rompt jamais, et qui l'impacte alors quand le peuple faillit. Et Dieu dit qu'il a été lui-même, avec son peuple, rendu en esclavage face au péché. Dieu est impacté, il souffre lorsque son peuple se détourne de lui, lorsque son peuple subit les conséquences d'une désobéissance. Il souffre avec son peuple. Au tribunal de Dieu, après le jugement vient la sentence. Alors dans un certain nombre de textes bibliques, en particulier dans l'Ancien Testament, Dieu exprime sa sentence. Souvent, il la décrit très précisément. Il dit notamment que le péché mène à la mort, qu'il y aura destruction, qu'il y aura abolition, qu'il y aura la mort d'un pays, la mort d'un régime politique, la mort spirituelle d'un peuple, la mort dans même le corps, dans la santé. Et à plusieurs reprises, Dieu, le seul sauveur, accorde sa grâce en proposant une alternative qui serait tout de suite liée à une repentance. Dieu aime énoncer, en fait, pour être vrai et juste, ce qui nous attendrait si nous devions être vraiment en jugement devant lui, sans sa clémence. Et en même temps, tout de suite après, il nous dit qu'il a une alternative, parce qu'il nous aime. Et ici, dans notre texte, au chapitre 43, le Seigneur explique son pouvoir, car si nous devions entrer en jugement avec lui, le Saint des Saints, nous n'avons besoin que d'une chose, c'est qu'il efface nos fautes et qu'il ne se souvienne plus de notre péché. Voilà la délivrance que Dieu accorde, et c'est au verset 25. Comme il est dit dans notre texte, Dieu est le seul, il est l'unique, à pouvoir effacer les transgressions. de manière pleine et entière. Devant Dieu, devant son jugement, son regard juste, vrai, sincère, notre nature pécheresse ne ferait aucun poids. Ce n'est pas la peine d'essayer. Ce n'est pas un défi que je vous lance. Le peuple d'Israël a accumulé les transgressions de génération en génération. Et en réponse, la bonté du Père s'est révélée de génération en génération. Au tribunal de Dieu, il nous a montré ce que nos actes engendrent. Il dit, puisque vous avez été désobéissants, j'ai profané les princes du sanctuaire. Je ne vous ai pas traité avec respect. Vous avez été désobéissants. J'ai livré Jacob à l'anathème. La génération, la descendance de Jacob, je l'ai sorti de ma présence. Je l'ai sorti de mon regard. J'ai livré Israël aux injures. Israël a ainsi perdu sa dignité et a été livré aux rois étrangers. Parents, conjoints, amis, frères, sœurs, l'exemple que Dieu nous donne, c'est un exemple suprême. Il est parfait, il est saint. Il est bien loin, très loin de notre capacité naturelle. Mais essayons-nous. Afin de revenir, notre être aimé a besoin que nous lui accordions le pardon. Que nous soyons d'abord pleins d'amour. Que nous apprenions à effacer la faute. Et que nous aidions ainsi notre être aimé à se placer devant Dieu. Si nous sommes déjà un obstacle pour notre prochain, alors nous nous mettons entre lui et Dieu. Aidons notre être aimé à se placer devant Dieu et à prier pour que la faute, l'erreur, l'acte posé soit effacé. Prions ensuite ensemble pour que nous soyons renouvelés, nés de nouveau, et pour aller de l'avant dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alors finalement, ne prendrions-nous pas plaisir à reconnaître nos fautes avec humilité devant Dieu? Ne serait-ce pas un moment de plaisir? Parce que nous savons que c'est un moyen de stopper notre mauvais comportement, d'oublier et de faire germer le nouveau. Dieu, en effet, est le seul à pouvoir effacer notre faute entière. N'est-il pas bon que l'homme se repente, qu'il cherche auprès de Dieu sa clémence? Je voudrais nous laisser avec une prière de Daniel qui est magnifique, qui est une prière que l'on retrouve dans Daniel au chapitre 9. Nous allons la lire ensemble, les versets 1 à... Et c'est une prière que nous pouvons faire aussi dans notre cœur. Alors, je lis aussi l'introduction. La première année de Darius, fils de Xerxès de la dynastie Mède, qui était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai compris par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir sur les ruines de Jérusalem. D'après la parole du Seigneur qui était parvenue à Jérémie, le prophète, 70 ans, je me tournais vers le Seigneur Dieu, en quête de prières et de supplications, par le jeûne, le sac et la cendre. Je priais le Seigneur mon Dieu, et je lui fis cette confession. S'il te plaît, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons agi en méchant et en rebelle. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Oui, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des sacrilèges qu'ils ont commis envers toi. Seigneur, à nous la honte, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. au Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté le Seigneur notre Dieu pour suivre ses lois qu'ils avaient mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a passé outre à ta loi et s'est écarté sans t'écouter. Alors se sont répandues sur nous les malédictions liées aux serments qui ont été écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a réalisé la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un malheur si grand qu'il n'en est jamais arrivé, sous le ciel entier, de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu pour nous, sur nous, et nous n'avons pas cherché à apaiser le Seigneur, notre Dieu. Nous ne sommes pas revenus de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. Le Seigneur a veillé sur ce malheur. Il l'a fait venir sur nous, car le Seigneur notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites. Et nous ne l'avons pas écouté. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte d'une main forte et qui t'es fait un nom, voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Nous avons péché, nous avons agi en méchant. Seigneur, s'il te plaît, selon tout ce que tu fais pour la justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville. Jérusalem, ta montagne sacrée, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont exposés aux outrages et tous ceux qui nous entourent, de tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, entends ma prière et mes supplications. À moi, ton serviteur. Pour le Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, tends l'oreille et entends. Ouvre les yeux et vois nos lieux dévastés et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait pour la justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, entends. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, pour toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Que le Seigneur nous encourage, encourage nos actes de foi, qu'il nous donne la force de nous agenouiller avec humilité pour goûter sa clémence. Amen.